Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. S'en prendre à l'esprit plutôt qu'au corps. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le général et stratège chinois Sun Tzu préconise déjà ce type de guerre. Battre l'ennemi sans combat physique. Avec les moyens de communication considérables de notre époque, les guerres de l'esprit prennent une toute autre dimension. Pour en parler, je reçois Raphaël Chauvency, officier supérieur des troupes de marine, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez VA Éditions intitulé « Vaincre sans violence, manuel d'influence et de guerre de l'information ». Bonjour Raphaël Chauvency.
Bonjour Lila.
Allez, on va commencer par des définitions. On parle de quoi ? De guerre de l'information, de guerre de l'esprit, de guerre des connaissances ?
Alors on va parler de deux choses, de guerre de l'information et d'influence.
Ouais.
Alors l'influence va consister à agir de manière indirecte pour orienter les décisions de la cible ou le cours des événements. Quelque part, c'est une sorte d'architecture environnementale. La guerre de l'information, elle, va viser à utiliser tous les moyens informationnels pour atteindre trois objectifs. Le premier, c'est saper les capacités d'analyse de la cible. Le second, paralyser sa volonté. Le troisième, enfin, rechercher sa dislocation intérieure en remettant en cause ses critères de légitimité.
Donc on parle pour la cible qui peut être un individu, un responsable, mais qui peut être aussi un peuple.
Qui peut être un individu, un responsable, un groupe, un État, une entreprise, peu importe.
Donc l'idée dans cette modernité, c'est qu'en effet, on touche plutôt là, les peuples dans ces guerres de l'information. D'où aussi peut-être le concept de guerre de l'esprit, on touche à la connaissance intime.
Exactement. On peut même parler de guerre par le milieu social.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on regroupe l'ensemble des données sociales. Mais les données sociales, je pense aux données cognitives, aux données culturelles, aux données intellectuelles, aux données économiques, données sociales évidemment. Donc toutes ces données, en fait, sont à la fois les structures d'une société ou d'un groupe, mais peuvent être utilisées contre ce groupe pour le déstabiliser.
Ouais. Alors je le disais au début, Sun Tzu, 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, votre livre part de 1942, c'est l'année où les Américains créent l'Office of War Information, donc l'Office de la guerre de l'information. Pourquoi vous le faites partir de cette année-là ?
Parce que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que véritablement les procédés de guerre de l'information, les procédés de guerre psychologique vont être développés. Les Américains vont chercher à la fois à attaquer leurs adversaires, bien évidemment, notamment les nazis à l'époque, mais aussi à promouvoir leur propre modèle de société. Et c'est intéressant parce qu'avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains cherchent à promouvoir leur modèle de société pour en quelque sorte rééduquer les Allemands et les faire basculer dans ce qui deviendra le camp occidental très rapidement.
Ouais. Et par la suite, guerre froide. Et là, ça va être encore plus utilisé, c'est cela ?
Exactement. C'est dès 1948 qu'une note secrète de la CIA, aujourd'hui déclassifiée, a parlé sous la plume de John Kennan de « political warfare ». Qui en fait regroupe, alors c'est ce qui regroupe la guerre par le milieu social qu'on évoquait à l'instant, et qui regroupe l'ensemble des moyens non militaires pour parvenir à ses fins.
Ouais. Et donc là, l'objectif, c'est à la fois de toucher les peuples de son propre camp occidental, mais aussi de toucher les peuples de l'autre côté de la muraille de fer.
Alors évidemment, parce qu'il y a deux aspects. Un aspect qui va consister à renforcer son propre camp, à renforcer tous les liens qui peuvent unir les différents États de ce qui devient le camp occidental, et simultanément chercher à décrédibiliser l'adversaire. Sachant que simultanément, l'URSS a également développé des méthodes de guerre psychologique, méthodes d'influence, de guerre de l'information, extrêmement offensives, plus peut-être même que les méthodes américaines. Et donc, la guerre froide a déjà été une première étape, un premier affrontement cognitif, un premier affrontement, en fait, entre sociétés et entre les esprits.
Et nous, les Européens, on était où pendant cette guerre froide ?
Alors, les Européens, pendant cette guerre froide, étaient moins acteurs de ce qu'on aurait pu croire. C'est-à-dire que les Européens, dès la guerre froide, en fait, sont entrés dans le camp occidental, mais sont entrés dans une position à la fois d'alliés, mais d'alliés dominés par les États-Unis.
Ouais. Donc, on n'a pas appris.
Peu.
Ouais. Donc, aujourd'hui, la guerre froide est terminée. Il y a eu, à partir des années 90, cette fameuse mondialisation. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de la chute du mur de Berlin, ces problématiques ont disparu à la fois chez les civils et chez vous, les militaires.
Alors, les problématiques n'ont pas disparu, mais je pense qu'il y a une erreur d'analyse majeure qu'on a trouvée dans l'ensemble des nations démocratiques, c'est-à-dire que l'on a cru que l'on se dirigeait vers la fin de l'histoire, la fin des conflictualités, la fin des rivalités de puissance. Et donc, les savoir-faire développés, notamment par les Américains, ont été mis un petit peu de côté dans ce domaine-là. Les Américains se sont concentrés sur la guerre économique et ont laissé de côté toute cette guerre de l'esprit, ne pensant plus avoir de rivaux. Les Européens encore plus que les Américains.
Ouais.
Et le réveil a été douloureux. Alors pour nous, Français notamment, ça a été en particulier en Afrique et au Sahel, où malgré les résultats opérationnels obtenus par nos forces armées, eh bien nous avons été victimes d'opérations de déstabilisation informationnelle majeures.
Ouais. Donc très clairement, on n'a pas été à la hauteur à ce moment-là. On voit des pays se réarmer d'un point de vue théorique et pratique sur ces... sur champ de bataille de l'esprit, hein, les États-Unis, mais on voit aussi des pays comme la Suède mieux s'organiser. Et vous avez été militaire en Grande-Bretagne, vous avez accompagné les troupes de marine britanniques, et eux aussi sont organisés.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai été détaché pendant 4 ans chez les Britanniques, chez les commandos britanniques, où j'ai pu voir la place importante que prenait la guerre de l'information dans leur doctrine, dans leur planification et dans leurs actions. Et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a énormément marqué. Les Britanniques sont très attachés à cet aspect du combat informationnel. Ils ont même une brigade entière.
La 77e.
Exactement, qui est entièrement dédiée.
Et nous, on n'a pas ça ?
Alors nous avons le centre interarmé des actions sur l'environnement, je vous rassure, qui est en train de grandir, de prendre de plus en plus d'ampleur, qui développe également des méthodes à la fois défensives et offensives, qui nous permettent, toujours dans un cadre démocratique évidemment et éthique, de contrebalancer les offensives dont nous sommes victimes et de défendre nos intérêts et nos valeurs.
Et les Suédois, alors c'est quoi leur approche ? On a l'impression qu'elle est plus sociétale.
Oui, les Suédois ont réactivé le concept de la guerre froide de défense totale. Considérant que la menace peut être militaire.
Elle est proche.
Elle est très proche dans leur cas. Mais que la menace peut être aussi sociale, c'est-à-dire que l'adversaire peut rechercher leur dislocation intérieure.
Ouais.
Et c'est un concept que les Britanniques ont également développé dans leur dernière revue stratégique de 2021, où ils parlaient du risque également de dislocation sociale. C'est-à-dire que l'ennemi ne va pas forcément s'en prendre directement, militairement, à leurs armées ou à leurs infrastructures, mais au contraire, chercher la polarisation, chercher la division, chercher la remise en cause du sentiment de former une nation, chercher la remise en cause du sentiment d'un destin commun, chercher la remise en cause d'une volonté stratégique.
Et dans ces cas-là, l'agence suédoise est plutôt une agence civile ou militaire, là ?
Alors, les Suédois ont réussi à concilier approche civile et militaire, et c'est ce qui est très intéressant, ce qui est très efficace également. Les Britanniques le font aussi, les Français commencent à le faire.
Est-ce que nous, on n'a pas séparé les deux, justement ?
Alors, de plus en plus, civils et militaires travaillent ensemble, ne serait-ce que par un dispositif très simple qui s'appelle la réserve.
Ouais.
Mais les organismes militaires et civils apprennent à avancer ensemble parce que la doctrine est la même, les menaces sont les mêmes et la réponse ne peut être que globale.
Bon, donc on a upgradé là, on a progressé là-dessus, sur ces problématiques-là, en Europe plus généralement ou pas ?
Oui, alors les progrès ont été énormes, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais les progrès ont été énormes, notamment dans un pays comme la France. J'ai parlé tout à l'heure de surprise en Afrique. La réaction a été quand même très intéressante. Des organismes comme Viginum ont été créés. Viginum, c'est l'organisme qui consiste à identifier et dénoncer les fake news. Ce qui a permis de mettre sur la place publique, de décrypter de très nombreuses offensives, notamment menées par les Russes contre notre société. Donc il y a aussi une prise de conscience, je pense, aussi bien de la part de nos autorités militaires que politiques, de l'importance de ce domaine. Donc il reste encore du travail, bien évidemment, mais il y a une prise de conscience forte.
Alors, prise de conscience sur le défensif. Est-ce que le travail, il n'est pas sur l'offensif ?
Alors le travail doit être offensif également. C'est peut-être dans ce domaine que nous avons encore une marge de progression. Du fait, je pense, pas d'un manque de savoir-faire, mais d'une certaine inhibition. Et il est important de comprendre, mais que nos concitoyens le comprennent, que nous sommes dans une véritable guerre informationnelle, une guerre qui se livre sans coup de feu, sans destruction visible, mais qui cherche vraiment à détruire toutes les assises de notre société, de notre vivre ensemble, comme on dit. Et pour cela, eh bien, comment dire, il est essentiel de savoir attaquer, l'adversaire, mais l'attaquer sans reprendre les mêmes armes que lui. Mmh. C'est-à-dire que si on se livre à de la désinformation, à de l'intoxication, à un déferlement de fake news, comme peuvent le faire les Russes ou d'autres, et en fait, on perd notre propre crédibilité. Mmh. Et donc, il faut être capable
d'attaquer.
Mais il faut garder sa crédibilité. Parce qu'on peut obtenir des avantages tactiques à court terme. Les Russes l'ont fait. Ils l'ont fait en Afrique, ils le font en Europe, ils le font partout. Ils risquent à moyen et long terme de le payer très très cher. Mmh. Parce qu'une manipulation, c'est un viol des consciences. Mmh. Et généralement, les individus ou les groupes n'aiment pas beaucoup être violés. Mmh. Donc, le retournement, lorsque toutes les manipulations dont se rendent coupables les Russes seront connues par les masses, je pense que la Russie s'expose au risque de redevenir l'empire du mensonge, de perdre sa crédibilité et sa légitimité. Mmh. Alors nous sommes déstabilisés, ou nous l'avons été pour l'instant, mais en étant droit dans nos bottes, fidèles à nos valeurs, en attaquant sur des faits objectifs, eh bien, il est possible, je pense, de reprendre l'ascendant informationnel. Ça prendra du temps, mais nous sommes, je pense, dans de bonnes dispositions, et bien plus que les Russes, malgré les apparences.
Merci beaucoup, Raphaël Chauvency, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.